RRB pour être au cœur de l'actualité.
Et c'est l'heure de notre magazine des sports. Mais d'abord un salut à notre parrain.
Avec Decathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Decathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Et oui, notre magazine des sports du lundi que nous ouvrons par du football. Saint-Étienne a arraché le match nul un partout dans le derby contre Lyon. En clôture de la 9e journée de Ligue 1, les Verts restent malgré tout derniers du championnat, Morgan Boucher.
Dans un derby disputé, les Stéphanois sont revenus au score grâce à un pénalty transformé par Wahbi Khazri dans le temps additionnel. Alors que Oussem Aouar avait ouvert le score avant la mi-temps, on signalera que le gardien lyonnais Anthony Lopez a été exclu pour une main hors de la surface de réparation à la 74e minute de jeu. Si le match nul de Lyon est une surprise vu la dynamique des deux équipes, la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Rennes l'est encore plus. Les joueurs de la capitale restaient sur 8 victoires en 8 matchs et Mauricio Pochettino avait aligné quasiment son équipe type avec Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria en attaque. Malgré tout, ce sont les Bretons qui se sont imposés 2-0 grâce à des buts inscrits en toute fin de première période et au tout début de la seconde. Écoutez la réaction de l'entraîneur rennais Bruno Genesio.
On a fait le match qu'il fallait avec tout ce qu'il faut pour battre cette équipe. C'est-à-dire d'abord de l'envie, de la solidarité, une faculté à faire beaucoup d'efforts. On a rajouté quand même du jeu, du pressing. Et puis, il faut aussi une part de réussite qu'on a eue, je pense, dans ce match et qu'on n'avait pas forcément eue, par exemple, à Bordeaux. Donc, on a eu tous ces paramètres qui étaient alignés ce soir et qui nous ont permis de l'emporter face à une très bonne équipe de Paris.
Et à quelques kilomètres de Rennes, au stade La Beaujoire, les Nantais d'Antoine Comboiré l'ont emporté 2-0 également. Une victoire acquise contre 3 à la grande satisfaction du coach calédonien.
Ben déjà une énorme satisfaction parce que on venait de perdre à Reims et forcément que j'ai suffisamment dit, répété que j'étais pas content de notre prestation, mais surtout de la défaite, de la manière dont on avait joué et puis donc les garçons ont bien réagi. Voilà, on n'attendait pas moins d'eux une victoire, donc c'est bien, même si elle a été acquise dans la difficulté.
Et dans les autres rencontres du jour, Lille a enregistré son 3e succès consécutif en championnat en battant logiquement Marseille 2-0. Monaco a battu Bordeaux 3-0, Lorient a concédé le match nul un but partout contre Clermont et Angers s'est imposé 3-2 devant Metz. Hier, Nice l'a emporté 2-1 contre Brest et Montpellier et Strasbourg ont fait match nul un but partout. Et puis je rappelle que samedi matin, Lens a gagné 2-0 contre Reims. Au classement, Paris est toujours en tête avec 6 points d'avance sur Lens et 8 points d'avance sur Nice. En bas de tableau, Saint-Etienne et Brest n'ont toujours pas gagné et comptent 4 points après 9 matchs. Prochaine journée dans 15 jours après la trêve internationale.
Allez, le petit tour comme chaque lundi dans les autres championnats européens.
Et on commence avec la 7e journée du championnat d'Angleterre. Pas de vainqueur dans le choc entre Liverpool et Manchester City. 2 buts partout, score final. Tottenham, de son côté, a battu Aston Villa 2-1. En Espagne, le Real Madrid s'est incliné 2-1 sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Le but de Karim Benzema n'a pas suffi. En Allemagne, le Bayern Munich a subi sa première défaite de la saison. Les Bavarois se sont inclinés 2-1 devant Francfort. Enfin, en Italie, le leader napolitain reste en tête du championnat après sa victoire 2-1 contre la Fiorentina. Et le Milan AC reste deuxième après son succès 3-2 contre l'Atalanta Bergame.
Le rugby est le dernier match de la 5e journée du top 14. C'est joué ce matin, Mick.
Exactement, et Clermont qui a battu le Racing 92-26-17, d'abord mené au score sur leur pelouse. Cette fois, les Auvergnats de Sébastien Vaamaina, capitaine du jour, ont su se ressaisir pour aller chercher un succès important quand on sait que Clermont pointait à l'avant-dernière place du championnat. Camille Lopez, le demi d'ouverture des Clermontois.
La semaine dernière, certes, on a fait une bonne partie, il y a du contenu qui est positif, mais il y avait 0 points et aujourd'hui, on a besoin comptablement de marquer des points pour un peu essayer un peu de se lancer dans ce championnat parce qu'on était dans le fin fond du classement. Donc voilà, aujourd'hui, une première mi-temps un peu approximative, on a un peu surjoué dans notre camp, on a essayé de trouver des opportunités. En seconde mi-temps, on a rectifié un peu le tir et on va chercher cette victoire qui est importante.
Je rappelle qu'hier, le champion en titre, Toulouse, avait décroché une nouvelle victoire à Biarritz 17-11. Les Toulousains, solides leaders, ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison. La Rochelle, vice-champion de France, a été battu par Montpellier 21-11. Le Stade français, dernier du classement, a perdu à Brive 19-12. Un succès encore pour l'Union Bordeaux-Bègles 20-15 sur le terrain des Lyonnais. Perpignan s'est incliné à domicile contre Pau 29-14. Et le RC Toulon s'est incliné à Castres 27-16. Alors les conséquences au classement à l'issue de cette cinquième journée. Toulouse caracole en tête, suivi de l'Union Bordeaux-Bègles, de Brive et de Castres. Pau 5e et le Racing 92 qui complète le top 6. Clermont est remonté à la 9e place alors que Toulon est 11e, La Rochelle 13e, le Stade français bon dernier.
Alors l'actu du rugby, Mickaël, c'était aussi ce week-end dans l'hémisphère sud, la fin du rugby championship.
Et la sensation, c'est la Nouvelle-Zélande qui a été battue en conclusion de ce tournoi des nations de l'hémisphère sud. Défaite face aux Springboks, champion du monde en titre, 31-29. On rappelle que les All Blacks étaient déjà vainqueurs de cette compétition depuis leur victoire le week-end dernier sur ces mêmes Sud-Africains. L'Australie, de son côté, a battu l'Argentine 32-17. Si bien que les Australiens terminent à la 2e place, juste devant les Springboks.
Et puis autre annonce en rugby, les Barbariens français affronteront les Tonga. Ce sera le 13 novembre à Gerland, au stade de Gerland à Lyon, pour un match de gala. La sélection tongienne est en quête d'une qualification pour la Coupe du Monde de 2023 qui aura lieu, vous le savez, en métropole. On passe au cyclisme et l'Italien Sonny Colbrelli a remporté la 118e édition du Paris-Roubaix. Le champion d'Europe, Morgan Boucher, participait pour la première fois à cette course mythique.
Et l'enfer du Nord n'a jamais aussi bien porté son surnom. Les coureurs ont dû faire face à la pluie et à la boue sur les pavés, entraînant de nombreuses chutes. Colbrelli de la formation Bahreïn a battu au sprint sur le vélodrome de Roubaix ses deux derniers compagnons d'échappée, le Belge Florian Vermeersch et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. Écoutez la réaction de Sonny Colbrelli.
C'est mon premier Paris-Roubaix et je gagne. Je suis très heureux. C'est un Roubaix de légende aujourd'hui, donc avec la pluie, avec la pluie dès le départ.
I follow only Van Der Poel in the final.
J'ai suivi Van Der Poel dans le final. J'ai fait un super sprint et je suis vraiment très heureux.
Colbrelli est le deuxième coureur à gagner la Reine des Classiques dès sa première participation. Hormis l'Allemand Joseph Fischer qui avait ouvert le palmarès en 1896, le Français Jean Forestier est le seul néophyte en 1955 à s'être imposé dès ses débuts. Le coureur lombard a signé la 12e victoire italienne, mais la première au 21e siècle.
On parlera cyclisme dans la deuxième partie de ce magazine des sports avec notre invité qui est Tommy Van Noudendijk, le président du comité régional de cyclisme. Tommy Van Noudendijk, bonjour.
Bonjour.
Vous avez bien sûr regardé Paris-Roubaix cette nuit. C'était
oui.
Une course mythique, elle fera partie des courses qui resteront dans l'histoire.
Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un Paris-Roubaix sous la pluie, donc voilà, ça, c'est toujours mythique de revoir sous ces conditions-là. Mais c'est vrai que c'est fabuleux de les voir faire du vélo sous ces conditions. On se demande comment ils arrivent à tenir, quoi. Donc il y a eu beaucoup de chutes, il y a eu beaucoup de faits de course aussi. Donc oui, je pense que ça restera effectivement assez marqué, oui.
On vous retrouve dans un instant, Tommy Van Noudendijk. Je signale aussi que Paris-Roubaix s'est ouvert aux dames cette année et que c'est la Britannique Elisabeth Degnan, qui a remporté la première édition féminine. Les sports mécaniques maintenant, avec d'abord la MotoGP. Et Fabio Quartararo a encore fait une bonne opération lors du Grand Prix des Amériques, Mickaël.
Le Français continue de rouler vers un sacre mondial. Il a terminé deuxième d'une course remportée par l'Espagnol Marc Marquez. Il a surtout devancé l'Italien Francesco Bagnaia, son principal rival pour aller chercher la couronne mondiale cette année. Il a accentué son avance en tête du classement. Fabio Quartararo commence d'y songer très sérieusement.
Faut pas s'exciter. On a encore trois courses. Pour être sincère, l'objectif ce serait de gagner le titre au Portugal. Maintenant, je vais commencer vraiment à penser au championnat. Mais voilà, c'est comme ça que je m'amuse. Je l'ai dit depuis 5-6 courses que je m'amuse énormément. Et on verra bien. Ça pourra peut-être se faire à Misano, mais aucune pression. Si ça se fait pas à Misano, ça se fera normalement. On croise les doigts au Portugal. Aucune pression. Encore une fois, on a fait le job. Ça fait 15 courses qu'on est là, qu'on fait des podiums, donc un peu de tranquillité.
Johan Zarco, l'autre Français en lice dans la catégorie reine, a été victime d'une chute. Il a dû abandonner au Texas. Il est donc cinquième du championnat du monde. Il ne devrait plus se battre pour le podium mondial pour la fin de la saison. Les trois dernières dates, avec en vue peut-être un titre mondial pour le Français Fabio Quartararo en MotoGP. Dans deux semaines, ce sera en Italie, avant le Portugal le 8 novembre, puis l'Espagne pour finir le 15 novembre.
Côté rallye, le championnat du monde WRC faisait étape en Finlande.
Et c'est le Gallois Elfyn Evans sur Toyota qui a décroché la victoire finale. Son coéquipier Sébastien Ogier a terminé à la 5e place. On rappelle que le Français reste leader du championnat du monde, juste devant justement son coéquipier Elfyn Evans. Ogier roule cette année vers un 8e sacre dans ce championnat du monde WRC. Il ne reste plus que 2 rendez-vous cette saison et Ogier pourrait être sacré dès la prochaine manche en Espagne.
Et puis un mot de tennis, pas de titre pour Gaël Monfils à Sofia.
Ouais, une semaine après sa demi-finale à Metz, cette fois le Guadeloupéen était en Bulgarie en finale pour tenter de décrocher son premier titre de la saison, mais il s'est incliné face au tenant du titre, l'Italien Yannick Sinner. Score final 6-3, 6-4.
Et puis pour les turfistes, soulignons que c'était ce week-end le fameux prix de l'Arc de Triomphe, une course hippique de renommée mondiale dont c'était la 100e édition. Les 15 meilleurs pur sang de la planète s'affronteraient sur l'hippodrome Paris-Longchamp. C'est le cheval allemand Torquator Tasso qui a remporté l'épreuve pour devenir donc champion du monde du galop sur 2400 mètres. Midi 13, on se retrouve dans un instant pour parler cyclisme avec notre invité dans cette période de confinement. Tommy Van Oudendijk est avec nous. Voilà, on va donc tout de suite parler cyclisme avec Tommy Van Oudendijk, le président du comité régional Morgan.
Bonjour Tommy.
Rebonjour.
Merci d'être avec nous ce midi, effectivement, pour évoquer la situation qui est compliquée comme pour toutes les ligues et tous les comités de Nouvelle-Calédonie. Vous, comment le cyclisme fait face à ce nouveau confinement ?
Ah ben, comme tout le monde, je crois, on prend notre mal en patience. On attend d'avoir l'horizon qui s'éclaircit, on va dire. Voilà, donc on attend les éléments pour pouvoir se positionner et savoir comment si on programme une reprise ou pas pour finir quelques épreuves ou si on interrompt tout donc ça va dépendre un petit peu des dates et des conditions de reprise. Bon, après tout ce qui est tous les protocoles qu'il faudrait appliquer, on les a des fédérations, hein, donc je pense que dans toutes les disciplines c'est pareil. Avec mes confrères, on en a un peu échangé également avec les autres présidents. Les protocoles sanitaires qu'il faudrait appliquer, on les a de par nos fédérations. Donc voilà, je pense que de toute manière, ça, j'ai entendu aussi d'autres présidents le dire, les sportifs, avec le pass sanitaire. Donc aujourd'hui, on attend. Mais je suis assez pessimiste quand même, et je pense que ça serait plus serein de prononcer peut-être la fin de la saison. On a déjà un petit peu évoqué ces scénarios-là avec mon équipe pour les classements de coupe notamment. Donc c'est une discussion qu'on va avoir aussi avec les clubs là, pour ça, mais je pense qu'avec la chaleur qui arrive, tout le monde aura aussi, quand le confinement va reprendre, la préoccupation à reprendre ses activités professionnelles vraiment de manière beaucoup plus intense pour tout le monde, parce que ça fait du mal. Et voilà, donc je pense que on va finir un petit peu tranquillement, on va dire. On va peut-être faire des choses beaucoup plus dans la convivialité, peut-être, plutôt que des compétitions. On va voir, on y réfléchit.
Est-ce qu'il y a des contacts avec les instances? On pense au CTOS, au gouvernement, à la DGS.
Oui, voilà. Donc moi, j'ai déjà fait des appels, enfin, les ai déjà contactés pour voir un petit peu ce qui était prévu, s'il y avait déjà des choses d'annoncer. Pour le moment, on n'a pas de retour à ce niveau-là encore. Donc je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours, mais voilà. Donc je pense que c'est pareil. On préférait peut-être qu'on nous dise jusque 1er novembre, par exemple, il n'y a pas de compétition possible ou pas de regroupement sportif qui peuvent avoir lieu. Et au moins, on est fixé là-dessus. Et voilà, donc avoir une date. Aujourd'hui, on a aucun élément pour se prononcer, pour se positionner. Donc donc c'est compliqué de décider. Mais bon, on va attendre, quoi. Hein, on va voir. Parce que ça ne saurait tarder.
Et parmi les compétitions annulées, il y a le Tour Cyclo qui devait avoir lieu la semaine prochaine.
La semaine prochaine, voilà, c'était la date. Donc bon, avec les vacances scolaires, le calendrier, tout ça, donc on voit que c'était vraiment pas possible. Donc il y a aucun regret là-dessus. Et de toute manière, comme je l'ai dit aussi, hein, c'était pas lieu d'organiser quelque chose comme ça si c'était pour être dans un mode ultra confiné et puis avec toutes les conditions. Donc c'était clairement pas possible, quoi.
Ouais. Alors la période est compliquée, vous l'avez dit. Vous réfléchissez beaucoup à la fin de saison, mais quand même, on se pose des questions sur le Tour cycliste de Calédonie. Il y a le Tour cyclo, hein, depuis plusieurs années, qui rencontre beaucoup de succès. Est-ce qu'on va connaître le Tour tel qu'on l'a connu pendant de longues années, renaître de ses cendres, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une page qui est en train de se tourner ?
Je crois qu'on va, aborder quelques années, à mon avis, parce que ça ne va pas être que sur un an. Et on l'a déjà vécu cette année, où, et là je parle pour tous les sports et tous les grands événements que la Calédonie est en capacité d'organiser sur le plan international.
Donc marathon, etc.
Marathon, voilà. Je pense à le Challenger au tennis, voilà, et beaucoup d'autres choses, hein, la Coupe Hangan, des choses comme ça. Enfin, bon, beaucoup de choses hein, où à l'international et qui demandent des moyens financiers importants. Et c'est surtout. Enfin, c'est les deux éléments, voilà, conjoints qui font que le coût financier, parce qu'on sollicite évidemment les subventions publiques, donc les institutions sont mises à contribution, le tissu économique local, les entreprises aussi, mais voilà, ça va être très compliqué là-dessus. Donc sur l'aspect, le critère financier, ça va être compliqué. Et après, ben bon, je pense que de toute manière, sur le plan sanitaire, on voit que les conditions de voyage, je pense que ça va commence à s'assouplir au bout de deux ans quand même, je pense que voilà, mais donc je pense qu'on aura la capacité, même pour nous en 2022 on a des échéances à l'étranger, en Australie, les Océaniens notamment, sur la fin de premier trimestre on a le championnat des Dom-Tom qui s'organise à La Réunion en milieu d'année, des choses comme ça, donc on a des invitations. Là on avait une invitation en mois de début décembre pour aller à Guam pour aussi faire une compétition, voilà, donc voyager c'est une chose, recevoir aussi c'en est une autre. Après, c'est plutôt moi, c'est plutôt, et je pense qu'on partage ce sentiment avec des confrères, c'est plutôt l'aspect financier des choses, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on avait. Engagé le format plutôt cyclo avec des locaux qui coûtent quand même moins cher à organiser, et puis dans les conditions qu'on a connues il y a depuis deux ans, c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, donc je pense qu'avant de retrouver, quelles que soient les disciplines, les possibilités d'organiser des grands événements internationaux entre guillemets à l'échelle du pays, ça va être très compliqué, quoi. Donc
Et en attendant la reprise des compétitions internationales, certains Calédoniens s'exportent, notamment voilà. En métropole. Maxime Auvray découvrait le haut niveau du VTT cross-country depuis quelques jours. Le jeune Cagou participait notamment ce week-end à la dernière manche de la Coupe de France de sa catégorie d'âge dans la région de Marseille. C'était sa première grande compétition nationale dans la catégorie des moins de 19 ans. Le licencié de l'équipe ProBike Nouméa nous a fait part de sa réaction.
Là, ce week-end, du coup, c'était la Coupe de France de Marseille-Lumini. Et elle se déroule sur un terrain qui est très, très, très exigeant, tant techniquement que physiquement, avec des grosses montées, des grosses descentes, des parties très techniques. C'est très rocailleux, très glissant. Bon, malheureusement pour moi, je casse ma chaîne sur le troisième tour. Du coup, j'étais en train de faire une belle remontée. Je remontais petit à petit les concurrents qui étaient partis très vite, qui ont complètement explosé au troisième tour. C'est dommage parce que du coup, j'avais encore la forme pour remonter encore quelques concurrents. Et bon, j'ai cassé la chaîne dans une côte. Donc voilà, bon, après, c'est les risques du VTT, c'est comme ça. Alors après, l'objectif reste quand même réussi, hein, parce que l'objectif principal, c'était quand même de se confronter au niveau national et international, parce que du coup, c'était aussi une Coupe du Monde en même temps qu'une Coupe de France. J'ai pu faire cela. Bon, je savais déjà que le niveau en Calédonie était pas très élevé par rapport au niveau français, qui est un niveau vraiment mondial. Ça me permet de me jauger, de savoir ce que j'ai à faire pour l'année prochaine si je veux entamer une saison de Coupe de France. Et donc, un grand merci au comité, car c'est grâce à eux que je suis ici. C'est eux qui ont tout organisé de A à Z, donc je les remercie vraiment du fond du cœur, et aussi tous les gens qui m'ont encouragé sur Facebook, les copains du vélo et la famille, ça fait vraiment plaisir.
Et je rappelle qu'il y a une semaine, Maxime Auvray avait décroché la 7e place lors des championnats d'Île-de-France, et le week-end prochain, il disputera le Roc d'Azur, une compétition longue distance. On le voit, les Calédoniens peuvent quand même partir pour se jauger, comme Maxime Auvray, c'est une bonne chose pour lui.
Oui, parce que le cyclisme dispose d'un pôle espoir, donc avec par le biais du pôle espoir, effectivement, les jeunes qui sont dans ce pôle espoir peuvent avoir des facilités, je dirais, enfin les possibilités en tout cas de qu'on mène des actions pour eux, des opérations. Voilà, donc on avait envisagé de cette possibilité-là dans le cadre de son avenir sur le plan sportif de Maxime, savoir en milieu d'année si parce il avait l'objectif d'intégrer le pôle France VTT. Il fallait faire il fallait les sélectionner. Donc voilà, donc ça n'avait pas pu se faire en milieu d'année. C'était compliqué. On avait laissé plus ou moins de côté. Et puis là, ça s'est vraiment décidé et organisé en deux jours. Voilà. Et donc ces jeunes qui sont dans le pôle, comme au handball, c'est pareil, ou à natation, ont des possibilités, voilà, d'être détectés. Et on a encore encore heureusement des possibilités sur différents aspects et notamment financiers pour les envoyer sur des épreuves comme ça pour être détectées. Et comme il le dit, hein, c'est vrai que le niveau est français est très important. Et voilà, donc c'est une belle expérience. Ça lui permettra de savoir à son retour si il veut continuer dans cette voie-là et de continuer à vouloir en faire son métier, hein, clairement, puisque c'était son objectif, ou de revoir les choses différemment. Voilà. Donc c'est pas évident pour des jeunes, vu la période, vu l'éloignement par rapport à ce qu'on peut faire, puisque dans la région c'est pareil, on pouvait pas voyager, donc il y a aucun déplacement. Et donc les autres jeunes qui sont dans le pôle, ben, mis à part aujourd'hui la métropole, c'est compliqué, quoi. Voilà.
Et il y a les autres Calédoniens, Hugo Pommelet, Ryan Lachny, Ossane Tessier aussi, que le comité régional suit particulièrement, j'imagine.
Voilà, donc ça nous fait très plaisir, parce qu'en fait, on voit que le cyclisme, dans toute sa diversité, hein, sur les quatre disciplines, la route avec Ryan, la piste avec Hugo, et puis Océane sur la route aussi pour les féminines, donc on a une belle représentation sur toutes les
disciplines. C'est
complet, là. C'est très complet, donc on est pas mal. On est pas mal servi, et voilà, c'est tout leur mérite leur revient, bien sûr. Nous, on est on aide de lui dans les rouages, c'est tout simplement, mais voilà, c'est eux qui font le travail, c'est leurs entraîneurs, leur club et tout, donc c'est félicitations à eux. Océane qui, avec son club, a remporté la Coupe de France des clubs féminines, voilà, donc c'est une belle réussite, son club. Ryan, qui était un petit peu malade ce week-end, qui devait courir une épreuve qui est forfait, mais la semaine prochaine fait Paris-Tours, donc une dernière grande classique au niveau métropole, donc ça va être très relevé, voilà, donc il devrait être aligné au départ, j'espère que sa coupure forcée va l'aider. Et puis Hugo, qui a fait un beau succès en junior sur les 3 jours de Aigle en Suisse. Voilà, donc une belle récompense pour une belle saison qui s'achève. Et après, je pense que ça sera un peu la coupure pour tout le monde. Voilà, la coupure de fin d'année avant de rentamer après la saison prochaine au beau fixe.
Et puis il y a eu le retour de Florian Barquette aussi, qui va peut-être venir vous épauler. En tout cas, il va pouvoir donner ses conseils aux jeunes Calédoniens.
Voilà, donc Florian qui a décidé de revenir, c'était compliqué. Donc on discute avec Florian pour voir comment on peut, par rapport à ses projets d'avenir et de suite, comment il peut aider le cyclisme et les jeunes, surtout pour que continuer le développement en la matière, puisqu'on voit qu'on a des jeunes qui sortent. Il faut vraiment qu'on continue dans cette voie-là et que la dynamique ne se stoppe pas. Et donc c'est important d'avoir des jeunes comme ça qui ont eu un beau parcours quand même, hein, parce que voilà, il est parti jeune aussi, donc faire part de son expérience. Et Maxime, c'est pareil, quand il va revenir, faire part de leur expérience à tous les niveaux, donc voilà.
Merci Tommy Van Oudendijk, le président du comité régional de cyclisme, d'avoir été avec nous ce midi.
Merci.
Et il n'y a pas que les cyclistes calédoniens qui s'exportent. On va prendre des nouvelles de ceux qui sont actuellement autour du monde, notamment le golfeur Paul Barjon.
Oui, il disputait ce week-end le Sanderson Farms Championship. Il a terminé à la 39e place en jouant moins 11 au total. Le Calédonien termine à 11 coups du vainqueur Sam Burns. Et puis sur l'eau, en stand-up paddle, les cagous ont également brillé. Encore Noïc Gariou, Titouan Pouillot et Clément Colmas ont réalisé tout simplement le triplé sur les championnats de France longue distance sur le lac de Vassivière dans le centre de la métropole.
Voilà pour la page sportive, ce magazine des sports complet du lundi midi. Merci de votre attention. Les prochains rendez-vous, je vous rappelle, 13h, ce sera le rappel des titres. 14h, vous suivrez en direct la conférence de presse quotidienne du gouvernement. Je vous souhaite une belle après-midi.